grand bien vous fasse, du lundi au vendredi sur France Inter, à partir de 10h. Bonjour à tous, soyez les bienvenus en direct ou en podcast. Dans l'art délicat de la communication entre parents et adolescents, il existe une série de pièges et de chausse-trappes qui empêchent de bien se parler et de bien s'entendre, des petites phrases qui provoquent friction, énervement, agacement, incompréhension. Nous verrons ce matin quelles sont ces phrases qui déclenchent au mieux des combats à fleurs émouchetées et au pire des conflits thermonucléaires. Quelles sont les principales sources de l'incompréhension verbale entre parents et adolescents? Comment rétablir une saine communication? Quelles sont les règles d'or pour éviter de mal se parler? Éléments de réponse avec nos invités, le pédopsychiatre Patrick Bensoussan, le docteur Sophie Benkemoun, fondatrice de l'Atelier des parents, et avec Marion Joseph du magazine Phosphore. Et vous, racontez-nous comment vous dialoguez avec vos enfants adolescents ou préadolescents. Est-ce que la communication passe mieux avec les grands-parents? Et si vous êtes adolescent, n'hésitez pas à intervenir 01 45 24 7000, sans oublier l'appli France Inter et la page Facebook de Grand Bien Vous Fasse. Bonjour Thibaut de Saint-Maurice.
Bonjour Ali.
Notre professeur de philosophie. Alors chaque semaine, vous nous proposez une ordonnance philosophique.
Oui, et cette semaine, je vous propose une petite dose de stoïcisme pour essayer de mieux comprendre ces ados.
A tout à l'heure Thibaut de Saint-Maurice. Bienvenue dans Grand Bien Vous Fasse, la vie quotidienne, mode d'emploi.
France Inter. Grand Bien Vous Fasse. Ali Rebbi.
Parents, adolescents, comment éviter les petites phrases qui énervent? Trois invités pour déminer certaines situations. Bonjour Sophie Benkemoun.
Bonjour.
Vous êtes médecin généraliste et vous avez fondé en 2006 l'Atelier des parents. Quel est le but de cet atelier?
Alors, le but de cet atelier, c'est de fournir des outils de communication aux parents. Alors, pour les petits, les moyens et les ados. Je tiens beaucoup à ce terme parce qu'en aucun cas on va leur expliquer comment éduquer les enfants. Il n'y a que qui le savent, hein, ça c'est sûr. Et par contre, on a tous appris à parler et peu d'entre nous ont appris à communiquer. Et c'est vrai que c'est vrai. Du coup, ça aboutit, comme je dis toujours, les parents sont bienveillants et bien maladroits. Et puis, tant que ça reste des petits conflits, on en reparlera. C'est pas très grave, c'est le jeu, surtout à l'adolescence. Mais nous, parfois, on rencontre aussi des familles où il y a rupture de communication avec des ados. Et là, ça devient plus compliqué. Et ils ont besoin un petit peu, des fois, d'aide.
Alors, j'ai lu sur votre site que l'Atelier des parents participait à la parentalité positive.
Oui.
Ça veut dire quoi, exactement?
Alors, la parentalité positive, c'est essayer de mettre la bienveillance au cœur de la relation. Et la bienveillance, c'est pas juste une question de mots et de paroles et de messages. C'est aussi essentiellement une question d'attitude. Est-ce que mes messages transmettent l'envie que j'ai d'aider mon enfant à y arriver? À faire ce qu'il veut, hein. C'est pas à faire ce que je veux moi, même s'il faut aussi un cadre puisqu'on vit ensemble dans une maison, etc. Mais qu'ils s'épanouissent et on va dire quand on n'est pas dans la bienveillance, parfois, eh bien, on est plein de jugements, etc. Et du coup, on fait passer des messages qui vont pas être aidants pour un ado pour s'épanouir et puis devenir quand même un futur adulte.
Bonjour, docteur Patrick Bensoussan.
Bonjour.
Vous êtes pédopsychiatre, praticien hospitalier à Marseille. Vous avez notamment écrit « Comment survivre à ses enfants, ce que la parentalité positive ne vous a pas dit », apparaître en octobre. Qu'est-ce qu'elle nous dit pas, la parentalité positive, sur le dialogue parent-ado?
Ou peut-être au contraire, elle en dit un peu trop. Et que c'est aussi intéressant dans des situations qui soient conflictuelles ou pas, hein, de pas trop en faire et de pas trop en dire. Il y a autour de la parole tellement de choses qu'on entend à longueur de temps, hein, qui se positionnent toujours comme étant des boîtes à outils, des conseils. On vous dit pas comment il faut faire, mais en fait on vous dit comment il faut faire, etc. Et vous le dites bien, hein, Madame Benkemoun, c'est une chose primordiale de pouvoir donner aux parents toute la latitude de ce métier qui est quand même un peu complexe, quoi. Et tous les errements possibles, c'est-à-dire que de toute façon, on va se planter, on va se tromper, on ne va pas y arriver.
Merci.
Et on va survivre, et nos enfants vont survivre. Donc c'est quand même important de répéter des choses comme ça.
Bonjour Marion Joseph.
Bonjour.
Vous êtes rédactrice en chef adjointe du magazine Phosphore, que je lisais jadis, hein, qui est destiné aux 14-19 ans. Dans le numéro d'octobre, parents-ados, le grand bingo des petites phrases qui énervent, des petites phrases qui existent depuis que l'adolescence existe.
Exactement. Et d'ailleurs, souvent, ce qui
agace les ados, c'est que justement leurs parents leur ont dit « moi quand j'étais petit j'entendais toujours cette phrase-là » et puis finalement il la répète. Et c'est une des choses qui les agace justement.
Patrick Bensoussan, l'adolescence c'est presque une nouvelle naissance, au moins du point de vue hormonal, des transformations qui vont affecter sa vie biologique, psychique, sociale, avec la volonté plus ou moins forte de s'émanciper des parents qui n'apparaissent plus comme infaillibles, la relation parent-adolescent se reconfigure, et donc la communication également. Les adolescents, dans le même temps, investissent dans d'autres types de relations, amicales, amoureuses, sexuelles.
Oui, je crois que c'est vraiment un moment particulier. Vous évoquez bien cette idée de la naissance et de la renaissance. Hein. C'est un moment qui institue de façon très différente ce qui s'est déjà mis en place dans les années précédentes. Il ne faut pas laisser croire que tout à coup, un individu naît au moment de son adolescence. Hein. Il a toute une histoire, il y a aussi l'histoire de ses parents, etc., etc. On a trop l'habitude de dire tout à coup, tout se révèle à l'adolescence, c'est pas du tout ça. Mais dans le même temps, c'est coloré de façon complètement différente, autant par rapport aux parents que par rapport à lui-même, à ses engagements, à ses investissements, etc.
Sophie Benkemoun, beaucoup de parents d'adolescents participent à vos ateliers des parents.
Alors, aux ateliers et aussi aux conférences, parce qu'on fait énormément de conférences sur cette thématique avec mon associé.
Qu'est-ce qui les pousse à venir
Alors, c'est amusant, il y a vraiment beaucoup de profils très très différents. Il y a des gens curieux qui se disent, tiens, pourquoi pas. Il y a des gens qui sont complètement dans la mouvance, effectivement, psychologie positive, etc. Attention, faut pas leur faire de mal, etc. Et il y a des gens qui, à l'autre bout, sont aussi complètement en rupture de communication. Ils savent plus quoi faire, ils sont prêts à tout, donc ils vont là, comme ils vont certainement peut-être ailleurs, ils vont chercher de l'aide, en fait, quoi. Donc il y a toutes sortes de profils, en fait. Ouais.
On a du mal à communiquer entre parents et adolescents, Patrick Bensoussan, mais le lien est toujours là.
Enfin, il faut l'espérer, en tout cas, parce que c'est aussi quand même des
forts. C'est pas parce qu'on communique mal qu'il n'y a plus de lien.
Oui, oui, tout à fait. Mais c'est aussi des moments de rupture, hein. Et les ruptures, c'est pas aussi quelque chose qui doit être totalement inquiétant. Il y a aussi un moment où... Ça ne veut pas dire que quelque chose se casse dans le lien que vous évoquez ou dans l'histoire même des relations entre parents et enfants, mais ça veut dire qu'il faut vraiment qu'il y ait un épisode de réalité qui montre que les choses doivent être pensées différemment. Et parfois, il faut buter contre le mur. Enfin, il faut un accident dans le sens... c'est plus qu'un incident, quoi. Il faut un accident pour qu'on se rende compte, qu'on ouvre les yeux, qu'on accepte et qu'on fonctionne différemment.
Ce qui est difficile à vivre pour beaucoup de parents, c'est que leur parole n'est plus infaillible face à leur adolescent. C'est ça qui est difficile à accepter. Il faut faire le deuil de cette infaillibilité.
Et c'est un peu faire le deuil de l'enfant. Parce que maintenant, c'est un adolescent. Et nous-mêmes, on devient parents d'adolescents, qui n'est pas la même chose que d'être un parent d'enfant. Et ça nous confronte aussi au fait que nous vieillissons quand nous devenons parents d'adolescents. Et c'est pour ça que c'est aussi compliqué parfois à accepter. Et donc, on pourrait dire il y a la crise pour l'ado. J'aime pas ce terme, mais c'est souvent employé. Mais il y a aussi la crise pour le parent qui devient parent d'adolescent. Et c'est pas simple. Et si je n'accepte pas de vieillir, eh bien, c'est aussi, je n'accepte pas de leur laisser la place dans ce monde d'adultes. Et c'est déjà très compliqué pour eux, parce que quand on ouvre la radio, etc., et qu'on entend aujourd'hui, ils se demandent quelle place je vais trouver. Et en tout cas, pour le lien, nous, c'est vraiment quelque chose qu'on répète à vraiment sans cesse aux parents, l'objectif, quoi qu'il se passe, bon, la chambre, tout ça, les devoirs, ok, c'est votre quotidien, mais l'objectif, c'est de garder le lien à tout prix. Je dirais, quand je vois que le lien est cassé à cause des chaussettes qui sont pas dans le panier de linge, c'est cher payé quand même.
Marion Joseph.
Oui, c'est vrai que les chaussettes qui sont pas dans le panier de linge, ça, c'est pas la chose principale, c'est bien sûr le lien. Sauf qu'au quotidien, ça crée vraiment des situations parfois de désespoir pour les parents, même les chaussettes qui sont pas dans le bac à linge, et pour les enfants aussi, et souvent des incompréhensions. Vous prenez l'exemple du bac à linge. La petite phrase et ta chambre elle va se ranger toute seule, ça crée des cataclysmes. Et nous, ce qu'on essaye dans le dossier de montrer un peu, donc on se place forcément du point de vue des ados, c'est que ce qui se passe dans la tête de l'ado et dans la tête du parent, c'est pas du tout la même chose à ce moment-là. Le parent, lui, il est inquiet que la maison soit pas rangée, que aussi son ado devienne un horrible personnage incapable de ranger quoi que ce soit. Et l'ado, de son côté, il est peut-être préoccupé par autre chose. Il a envie de se reposer, etc. Et du coup, le fait de pouvoir passer peut-être un contrat entre le parent et l'ado, de pouvoir discuter des sujets un petit peu en amont, pour permettre que au moment de la crise chacun puisse trouver son compte, ça peut être une option. Et moi, ce qui m'a frappé en faisant ce dossier, c'est qu'il y a un décalage énorme entre le quotidien que peuvent décrire les parents et même les ados, c'est-à-dire des claquages de porte, parfois des crises, parfois non d'ailleurs, mais voilà, des grosses crises. Et puis, quand on discute, nous, tranquillement avec les ados, en fait, au final, ils sont globalement très heureux de la relation qu'ils ont avec leurs parents. Pas tout le temps, mais souvent. Ils trouvent que les parents leur mettent des limites tout à fait saines, qu'ils comprennent. Et voilà, ça peut être un message rassurant pour les parents aussi.
Thibaut de Saint-Maurice boit du petit lait. Ses enfants ne sont pas encore adolescents.
Non, en revanche, j'ai quand même pas mal d'élèves qui le sont encore, pour certains pas mal.
Tiens, j'aimerais qu'on évoque une phrase que des générations d'adolescents ont entendue. C'est pas un hôtel ici. Avec ces variantes, je ne suis pas un tiroir-caisse, je ne suis pas la Banque de France. Et certaines générations ont entendu « on n'est pas chez les Rothschild ici, Marion Joseph ».
Justement, c'est intéressant parce que quand on a échangé pour ce dossier avec les ados et les parents sur cette phrase-là, les ados étaient très surpris de voir ce qu'il pouvait y avoir finalement derrière cette phrase-là. C'est-à-dire que les ados, ils se braquaient parce qu'ils entendaient « c'est pas un hôtel ici » et eux, à ce moment-là, ils avaient peut-être envie de repartir chez un copain. Et donc pour eux, c'était ce qui comptait à ce moment-là. Et du coup, ils se disaient « s'ils me disent « c'est pas un hôtel », c'est qu'ils vont pas être d'accord pour que je reparte ». Et puis du coup, ils se braquaient. Et quand les parents expliquaient, en fait, moi là, je suis juste hyper un peu en colère parce qu'en fait, j'ai besoin de considération, j'ai besoin que tu vois un petit peu ce que j'ai fait cette semaine, etc. pour la maison. Du coup, les ados tout d'un coup disaient « Ah bon ? Ah ouais ? Ah bon ?» Alors dans le dossier, on leur dit peut-être de temps en temps, tu peux envoyer un petit SMS pour dire « Ah merci pour les 5 euros que tu m'as donné pour le kebab » et ça peut-être finalement apaiser des tensions. Et les ados disaient « Ah ouais, si c'est juste ça, en fait, ça va, quoi !» Et donc, du coup, c'est voilà, parfois, finalement, ces phrases, elles déclenchent des cataclysmes parce qu'il y a une incompréhension de part et d'autre des sentiments, des besoins de chacun.
Comment on désamorce cette phrase, Patrick Bensoussan, Sophie Benkemoun, « C'est pas un hôtel, ici, et la variante, je suis pas la Banque de France ?» Comment on désamorce ça?
Alors, moi, je pense que c'est les attentes que les parents ont pour les choses du quotidien, la chambre, les devoirs, l'argent de poche, etc., qui souvent ne sont pas assez claires en amont. Donc en amont, on décide de l'argent de poche, combien de temps, pour faire quoi, etc. Et ça, c'est propre à chaque famille. Tout ce qui va être clair en amont, qu'est-ce que j'attends de ta chambre, quand est-ce que le linge doit être dans le panier de linge, est-ce que c'est tous les jours, est-ce que c'est le mardi, parce que le mercredi, je fais les lessives, je ne sais pas. Plus c'est clair et plus c'est anticipé, moins on a de conflits. Je ne dis pas qu'on en a plus du tout. Mais déjà, en général, on met un peu d'atout dans sa poche.
Patrick Bensoussan.
Oui, moi je ne sais pas s'il y a lieu de désamorcer ce genre de phrases, parce que de toute façon, elles vont arriver un jour ou l'autre. Et c'est indéniable que quand on est parent, la question de « mais qu'est-ce que fout cet enfant dans la vie de la maison ? En quoi il participe ou il participe pas ? Est-ce que vous parliez de la banque, mais il y a tout le reste, femme de ménage, nettoyer, ranger, enfin, etc.
Chauffeur aussi.
Chauffeur, bien sûr. Mais donc il y a tout ça, immanquablement, ça va venir.
Marion Joseph.
Oui, et ces crises-là, elles peuvent être aussi l'occasion justement d'échanges, c'est-à-dire d'échanges pour faire ce contrat dont vous parliez pour la suite. Parce qu'il y a aussi une chose par rapport au contrat qui m'a frappée lors de l'enquête, c'est il y a se mettre d'accord sur ce qui va se passer dans tel ou tel cas, et puis aussi ce qui va se passer si le contrat n'est pas respecté. C'est aussi ça qui parfois crée les crises.
Thibaut de Saint-Maurice.
Alors le contrat, je vois un peu l'idée, mais est-ce qu'on ne peut pas prendre le problème à l'inverse et se dire, au fond, il y a aussi une vertu au conflit et à cette difficulté qu'on a à se parler, précisément parce que ce ne sont plus des enfants, ils sont en train de grandir, et précisément parce que les parents changent. C'est-à-dire, est-ce qu'en fait, il ne faut pas non plus de temps en temps, comment dire, ne pas arriver à se comprendre et ne pas arriver à se parler, une sorte de vertu positive du négatif, quoi.
Oui, bien sûr. Moi, je pense totalement. Et je pense aussi et surtout que tous les contrats qui sont établis avec les adolescents sont appelés à être ratés. Et que celui qui pourrait penser qu'on va mettre en place un contrat, où on va discuter et que ça va bien se passer par la suite, immanquablement, c'est appelé à pas fonctionner. Parce que, de toute façon, tout ce qu'on a dit jusqu'à maintenant, et puis il y a cette réalité aussi que il faut que ça frictionne, il faut qu'il y ait du jeu dans le sens, vous savez, de la mécanique, quoi, entre les uns et les autres, pour que ça puisse aller, quoi. Et il faut que les parents acceptent, à un moment ou à un autre, que les choses se passent pas comme ils ont envie de le régler, de le normer, etc. Et les ados, ils sont très compétents pour nous le rappeler.
Oui, alors l'objectif, c'est pas d'éliminer tous les conflits. L'objectif, c'est pas le problème, le conflit, c'est la façon dont on le gère. Et je pense que, bon, effectivement, dire c'est pas l'hôtel ici, c'est pas dramatique, et si c'est de temps en temps, c'est pas grave. Mais comme disait Marion, au quotidien, les parents qui ont voilà toute la maison, qui ont plusieurs enfants, etc., le linge, les devoirs et tout ça, on a besoin d'un minimum quand même de règles de vie collectives. Hein, sinon, c'est comme si nous, dans la rue, on n'avait pas du tout de code de la route. Avec le nombre de voitures qu'il y a aujourd'hui, on ne pourrait plus du tout avancer. Donc, et je pense que quand on met en place, alors c'est vrai que le terme de contrat, c'est un peu peut-être excessif pour ce qui se passe à la maison, mais de savoir un petit peu quand même qui fait quoi, comment et à quoi on peut s'attendre, et avec des conséquences si c'est pas respecté et des conséquences positives quand c'est respecté. Mmh. Aux parents aussi, même si c'est toi qui sors qui vide le lave-vaisselle tous les jours, ça ne doit pas t'empêcher de dire merci d'avoir vidé le lave-vaisselle.
Parents, ados, grands-parents, n'hésitez pas à intervenir, à témoigner au 01 45 24 7000 sur l'appli France Inter et sur la page Facebook de Grand Main Vous Fasse. Quelles sont les phrases qui vous agacent? Claire Destacan, Clara Marliot et Julia Macarez m'ont aidé à préparer cette émission réalisée par Stéphanie Texier. Et on écoute un titre de 2010, cette année-là. Disparaissaient les réalisateurs Éric Rohmer et Claude Chabrol. Belle journée à l'écoute de France Inter.
Working myself down to the bone.
Allo et Black, I Need a Dollar, avec notre technicien Rémi Sistiaga qui ne peut pas s'empêcher de danser, tout comme notre collaboratrice Claire Destacan qui dansait en régie, vous ne l'avez pas vu, mais il bouge bien quand même.
Grand bien vous fasse.
De toute façon, tu ne me comprendras jamais. T'es plus ma mère, ok, je fugue.
Ali Rébéi.
En fait, j'ai réfléchi et je t'aime trop.
Ah, t'étais parti? Allez, va mettre la table, s'il te plaît.
Sur France Inter.
10h26, parents ados, comment éviter les phrases qui énervent? Question témoignage au 01 45 24 7000.
Putain, frappe, merde.
Dans ta chambre, je frappe. La salle de bain, c'est pour nous deux.
Ta chambre, elle est rangée, elle reste rangée. Chaque chose a sa place, je t'ai déjà dit. D'accord?
Tu vas aller dans ta chambre et tout de suite.
Allez, maintenant, dans ta chambre, un lapin qui fait bravo. Allez, hop!
Mais tu me fais chier!
Tu me fais chier! Tu me fais chier!
Eh, tu me réponds pas, Laetitia.
Mais c'est bon!
Eh, stop, j'ai dit, oh! Tu me réponds pas, d'accord? On arrête avec les c'est bon, là.
T'as pas encore 18 ans, là. Il y a deux ou trois choses que j'ai le droit de pas accepter, tu vois?
C'est n'importe quoi, tes règles.
Attention à ce que tu me dis. Donne-moi tout de suite ton iPhone.
J'en ai marre, là, ok?
Eh, hey, oh, un autre ton, hein?
Je sais tout, Lola. Comment ça, tu sais tout? J'ai lu ton journal, ok?
Pardon? Interdiction d'utiliser iPhone, iPad, iPod Touch.
Moi, si ça continue, j'appelle l'enfance maltraitée!
Eh ben, appelle-les! J'en ai marre, putain, mais t'as pas le droit, de faire ça! T'es vraiment qu'une salope!
Mais qu'est-ce qu'elle a?
13 ans.
Mixage signé Stéphanie Texier, docteur Patrick Bensoussan. Tous ces adolescents qu'on a entendus, ils n'ont pas besoin de consulter dans votre cabinet. Tout va bien, c'est normal ce qu'on vient d'entendre.
Oui, oui, je pense que c'est totalement normal. Quoi. Et puis ça nous fait beaucoup sourire.
Exactement.
Je suis pas sûr que dans la réalité, quand on soit, quand on est soi-même dans cette situation, on sourit tout autant, mais... Après coup, je crois que c'est des moments importants.
On va demander à Valérie. Bonjour Valérie, bienvenue.
Bonjour.
Alors vous, vous êtes maman d'un ado de 17 ans.
Ouais.
Il y a des phrases qui vous énervent de part et d'autre?
Je sais pas. Pas tant. Enfin, j'écoute l'émission depuis tout à l'heure et c'est vrai que c'est des phrases que j'ai tellement entendues moi quand j'étais ado que peut-être il doit y avoir une petite machine intérieure qui a fait que je m'y suis pas collée moi à ces histoires de c'est pas un hôtel ou tout ça. Je préfère lui dire il est temps de ranger la chambre plutôt que de lui dire elle va pas se ranger toute seule. Tout de suite il y a une sorte de petite dimension d'ironie qui met un peu le feu aux poudres, je trouve. Après ça veut pas dire que ça rue pas dans les brancards régulièrement à la maison, hein. C'est pas ça.
Qu'est-ce qui fait ruer dans les brancards à la maison, Valérie?
Les moments, moi, très honnêtement, hein, je trouve que quand nous, les adultes, on est crevés, on n'utilise pas tout à fait les bons outils. Moi, je vois bien la différence. Alors, ce que j'ai un peu appris à faire à un moment donné, au fil du temps, je suis une maman un peu âgée, hein, j'ai 56 ans, donc c'est peut-être aussi grâce à ça que j'ai un petit peu plus de sagesse, peut-être, je sais pas. Mais ce que j'ai un peu appris à faire, c'est de dire quand je suis fatiguée. De dire, j'ai une journée de naze, je suis rincée, j'ai trop bossé aujourd'hui, j'en peux plus. Et du coup, mon panier de patience est vide. C'est une petite phrase que je disais quand il était plus petit, mais que je lui dis encore de temps en temps. Comme ça, il entend.
Votre panier de patience
par exemple,
est vide.
La conduite accompagnée. On l'a mis en place, là. Eh ben, je sais maintenant que quand je suis pas en état d'être un bon copilote, c'est moi qui conduis. Parce que la conduite accompagnée, c'est un super test de communication positive avec son enfant. On n'a pas le choix. Voilà.
En tout cas, Valérie, je note votre phrase, votre panier de patience est vide. C'est pas mal, ça.
Ouais, ouais.
Est-ce qu'il y a des phrases
que je voulais vous, enfin, qui m'a fait réagir tout à l'heure, c'est pour ça que j'ai appelé. C'était l'histoire du panier de linge. Quand j'entends, on lui dit quel jour faut mettre le linge dans le panier. Alors là, moi, je m'inscris totalement en faux. Moi, quand mon fils a voulu faire du foot, j'ai préparé un petit carton écrit en gros, vachement clair. Et je l'ai amené avec moi près de la machine à laver le linge. Et je lui ai dit, voilà comment elle fonctionne. Et je lui ai dit, jamais tu te débouleras vers moi en colère un matin de foot en me disant, maman, ma tenue de foot est pas propre. Ça, c'est pas possible. Je dis, je veux bien être partenaire. Je vais continuer à laver le linge de la maison avec ton papa et tout ça. Mais quand t'as des besoins urgents avec des machines qui sont pas dans l'ordre chronologique pour tes entraînements ou tes matchs, tu te débrouilles. Alors ça veut pas dire qu'aujourd'hui il lave tout le temps son linge, mais il sait faire. Et c'est lui parfois qui étend ou qui met la machine à tourner. Alors, je disais, j'en ai qu'un hein, d'enfant, donc c'est peut-être plus facile aussi que d'en avoir quatre. Mais moi, je pense que plus tôt on leur explique comment marchent les choses, et mieux c'est.
Sophie Benkemoun, alors là, je de l'atelier des parents.
Je vais totalement dans son sens. Hein. L'autonomie, ça s'acquiert, et ça, c'est pas, il n'y a pas un gène de l'autonomie qui pousse en une nuit. Donc effectivement, petit à petit, et c'est une excellente chose de leur apprendre à faire des machines, mais on ne va pas les rendre autonomes forcément sur tous les domaines de la maison. Donc on peut continuer, par exemple, à décider que c'est moi, parent, qui gère le linge, et je donne les règles de vie à la maison. Après, si le linge n'est pas descendu, si la tenue de foot, elle n'est pas lavée parce que ça n'a pas été fait, eh ben, elle n'est pas lavée. Et ça, c'est une conséquence logique. Et tu retourneras au foot avec ta tenue pourrie. Et ça, en général, ça fonctionne, quoi. Mais on peut parallèlement le dire, bah, écoute, dans des cas comme ça, effectivement, voilà comment fonctionne la machine aussi, effectivement.
Valérie, est-ce qu'il y a des phrases de votre ado de 17 ans qui ont le don de vous énerver prodigieusement ?
Alors oui, c'est le mot oui quand il n'y a pas d'action, c'est-à-dire vous voyez quand vous dites à quelqu'un tu viens, eh ben en général la personne elle dit oui et en même temps après le oui il y a un mouvement du corps qui vient vers vous et là quand vous avez l'ado qui est devant son écran assis sur son canapé et que vous dites on y va et il y a trois fois vous entendez le mot oui et que le corps ne bouge pas, ça c'est vrai que là faut quand même être vraiment zen, je trouve.
Merci beaucoup Valérie pour votre témoignage. Alors à l'adolescence, eh bien, il y a un besoin d'indépendance qui s'exprime. Et cette indépendance et ce besoin de vie privée, il passe par le téléphone et les réseaux sociaux. Patrick Bensoussan, exemple de phrase qui énerve les ados, lâche ton téléphone. Ou pourquoi tu passes ton temps sur Snapchat, Instagram ou TikTok ? Ça énerve forcément les adolescents, mais on n'est pas sur la même temporalité et les mêmes besoins. Donc il y a forcément des frictions.
Oui, et puis je crois que c'est quelque chose dont on a juste idée aujourd'hui, hein, mais c'est une véritable révolution, on pourrait même dire anthropologique, hein, le monde des écrans, les liens des jeunes aujourd'hui avec leur téléphone, etc., le nombre d'heures qui peuvent passer à continuer à être en lien, hein, et parfois pour n'importe quoi, juste histoire de se dire « qu'est-ce que tu fais, t'es où ?» enfin, des choses qui semblent tout à fait anodines alors qu'ils les ont vues pendant 5 heures ou 7 heures auparavant, etc. Enfin, il y a vraiment là quelque chose sur lequel les générations précédentes, on est dans une rupture de compréhension totale. C'est un truc totalement inouï, quoi.
Sophie Benkemoun, le téléphone, c'est l'instrument visible de leur indépendance. C'est l'objet qui rend visible le fait que leur adolescent leur échappe. Et ça, c'est difficile à accepter. Ouais. Vous avez beaucoup de parents qui viennent participer à vos formations ou à vos ateliers pour gérer cette question du téléphone.
Le téléphone et les écrans, tout écran confondu, c'est sûr que c'est le gros sujet aujourd'hui. Moi, je pars aussi en guerre contre les adultes. Parce que quel modèle on leur donne ? On ne voit que partout. Voilà, je suis arrivée ici en RER, on ne voit que des gens qui sont sur leur téléphone, etc. Alors, si j'étais tout seul dans le RER, pourquoi pas ? Je veux dire, avant, on était le nez dans un bouquin, on parlait pas non plus avec le voisin. Mais ça aussi, déjà, il faut de la cohérence à la maison. Et les ados en ont besoin. Donc, le fait ce que je dis et pas ce que je fais ne fonctionne pas. Maintenant, plutôt que de leur interdire, on peut aussi les tenter à faire autre chose. Autre chose qui est en rapport avec l'âge de l'ado, parce que c'est aussi, il faut aussi accepter qu'il va pas faire fini peut-être les promenades en forêt avec le petit frère et c'est ça.
Mais il faut accepter que leur ado leur échappe.
Mais c'est ça, mais c'est le propre de l'adolescence, c'est de se séparer, il va falloir se séparer donc.
Mario Joseph.
Oui, par rapport à cette phrase lâche ton tel, ce que j'ai pu observer en discutant avec les ados, c'est qu'en fait, il y a bon d'abord là, le côté exemple, ça c'est sûr. Oui, mais vous faites pareil. Et ensuite, le jugement et tout de suite la critique qu'ils voient derrière, en fait. Au-delà du fait de lâcher leur tel ou pas, ils entendent, t'es juste comme tous les autres ados, une sorte de spécimen qui passe son temps sur son téléphone et qui pense qu'à échanger avec ses potes sur les réseaux sociaux. Et voilà, ils voient tout de suite la critique derrière ce lâche ton tel, comme d'ailleurs derrière plein de petites phrases qu'on leur dit.
Comment on désamorce ce type de conflit, Patrick Bensoussan ? Qui est inextricable. Hein.
Oui, totalement. Je crois que, enfin, ce que vous disiez, c'était d'imaginer d'autres tentations, on va le dire comme ça, parce qu'on est quand même aussi beaucoup dans des modèles très addictifs. Hein. Quand on commence, on a de grandes difficultés de s'arrêter avec son téléphone portable, les liens, les Snapchat, etc. Mais dans le même temps, c'est compliqué, hein, parce que vous preniez l'exemple des adultes d'aujourd'hui, etc. les adultes d'aujourd'hui, pour eux, c'est aussi une révolution, le téléphone portable. Ils découvrent des trucs complètement inouïs auxquels ils n'avaient jamais pensé. Et donc, et ils sont là-dedans, ils sont tombés, pas comme le Obélix dans la marmite, mais pour eux, c'est un truc qui fait vraiment révolution par rapport à leur histoire. Tandis que pour les adolescents, ils ont l'impression que c'est tout le temps comme ça que ça existait. Moi, j'en ai un à la maison, et quand vous lui parlez, par exemple, du micro-ondes, il a l'impression que c'est un truc qui a existé depuis tout le temps, qu'il n'y avait pas de micro-ondes à notre époque, quoi. Et à notre époque, il n'y avait pas de téléphone portable. Enfin, ils sont tellement inscrits dans une espèce de modernité qui n'a pas grand-chose à voir avec ce que nous avons connu, que de fait, il y a une rupture sociétale, ça. Il faut qu'on l'assume.
Et puis, il ne faut pas oublier, comme le dit régulièrement la chercheuse Elena Pasquinelli, les portables, les smartphones sont de redoutables friandises, de redoutables pâtisseries pour nos cerveaux. Ouais. Et ça, c'est absolument difficile de se désintoxiquer.
Alors, les études montrent, il y a un livre du docteur qui est pédopsychiatre aussi, Olivier Fan, qui est intéressant sur écran, sexe, jeux vidéo, etc. Et vraisemblablement, certaines études montrent que les ados qui s'en sortent le mieux par rapport à l'usage de ça, c'est des ados qui ont appris à gérer la frustration. Ça, c'est extrêmement important, surtout maintenant avec ces jeux qui ne s'arrêtent pas, type Fortnite, etc., où on pourrait jouer 24 heures sur 24. Donc s'arrêter, c'est très compliqué. Et plus on a appris à l'enfant et à l'ado à mettre... Donc on a mis un cadre, on a mis des règles en place. Donc ok, t'es frustré, t'aurais envie de continuer, mais voilà. Et plus l'enfant sait gérer sa frustration, moins c'est compliqué pour la gestion des écrans. Mais effectivement, de toute manière, ça reste compliqué pour tout le monde parce que c'est très nouveau et surtout pour les parents, effectivement.
Thibaut de Saint-Maurice, le professeur de philosophie de Grand Main vous fasse tous les mercredis. Quelle est votre ordonnance philo cette semaine?
Eh bien, Ali, cette semaine, un traitement qui a fait ses preuves, je crois, parce qu'employé depuis bien longtemps, presque 2500 ans, et pour affronter une grande diversité de situations. Alors, je vous propose cette semaine une bonne dose de stoïcisme. Alors, pas la version en générique, vous savez, la version générique du stoïcisme dont on pense que ça permet simplement de supporter en restant impassible les difficultés de la vie. Non, je vous propose une version pure du stoïcisme, sa version première, philosophique. Et c'est un traitement qui s'adresse aussi bien aux parents qu'aux ados. Et ce sont les effets combinés de cette double prise qui, je crois, peut aider à mieux se parler, à mieux se comprendre. Alors pourquoi? Parce que, on l'a dit depuis le début de l'émission, le symptôme principal qu'il faut traiter, c'est le sentiment d'une triple incompréhension. D'abord, les parents ne comprennent pas tout de ce que font leurs ados et de leurs réactions. Les ados ont l'impression d'ailleurs que personne ne les comprend. Et même encore, eux-mêmes, en fait, ils ne se comprennent pas toujours très bien dans ce qui leur arrive.
Alors comment on traite toutes ces incompréhensions, Thibaut de Saint-Maurice?
Grâce au principe actif de la philosophie stoïcienne, que vous pouvez retrouver sous deux versions, celle de Marc Aurèle dans les Pensées pour moi-même, ou celle d'Épictète avec son petit livre manuel, toute la philosophie stoïcienne repose sur une distinction essentielle entre ce qui dépend de moi et ce qui ne dépend pas de moi. La sagesse et le bonheur ne sont pas possibles si on ne tient pas compte de cette distinction, et puis la compréhension mutuelle aussi, en passant. Il serait absurde de vouloir ou de poursuivre ce qui ne dépend pas de moi, et il serait absurde aussi de ne pas s'appuyer au contraire sur ce qui est en mon pouvoir. Ainsi, les parents doivent apprendre peu à peu que leurs enfants vont dépendre de moins en moins d'eux. On disait apprendre à se séparer, qu'ils se détachent, ces enfants, qu'ils s'éloignent, qu'ils font des choix et que peu à peu, ils vont tracer le chemin de leur propre vie. Après avoir été pleinement disponible, il faut apprendre à se retirer progressivement et à ce que leur enfant dépende de moins en moins d'eux. Mais ce principe actif du stoïcisme est efficace aussi pour les ados eux-mêmes. Parce que l'adolescence, vous avez remarqué, ça ne dépend pas précisément de moi. Ça arrive sans que je n'y puisse rien. Tout d'un coup, ça fait changer mon corps. Ça me soumet au regard des autres. Ça me donne envie en même temps d'exister dans leur regard. Je ne sais plus vraiment qui je suis. Je me pose des dizaines de questions du genre « c'est quoi le sens de la vie ? Pourquoi on doit mourir ? Qui je suis vraiment ? Comment ça marche les garçons ? Comment ça marche les filles ? Snapchat ou Instagram ? Et puis, à la fin de la journée, est-ce qu'il reste des pattes ?» Bon, une des crises de l'adolescence, c'est cette conscience toute nouvelle qu'on a la vie devant soi, avec un corps tout neuf, mais qu'on n'a pas trop choisi, qui nous tombe sur le coin de la figure un beau matin. Le stoïcisme peut soigner, ou du moins adoucir cette crise, parce qu'il va apprendre à distinguer justement ce qui dépend de moi, ce qui ne dépend pas de moi, ce qui est possible, ce qui est impossible, et qu'il promet par là une grande maîtrise de soi et une grande récupération de soi. Les changements du corps, par exemple, ce nez qui grossit, cette peau qui rougit, tout ça, on ne le choisit pas, on n'y peut rien. Mais s'entourer de bons amis, s'investir dans un sport ou dans un art, ça, on y peut quelque chose. Alors pourquoi ne pas s'y investir à fond? Ce traitement à base de stoïcisme est indiqué ici, je crois, pour aider les parents parents, les ados, à faire le même apprentissage. Tout ne dépend pas, ou ne dépend plus seulement de nous. Hein, ni ces poils qui poussent partout, ni les choix de nos enfants. Et c'est une bonne condition préalable pour arriver ensuite à se parler. En fait, on n'a jamais fini d'apprendre à vivre.
Le regard de deux vrais médecins, Sophie Benkemoun et Patrick Bensoussan, en quelques mots.
Oui, j'ai trouvé que vous aviez bien décrit toutes les transformations que vivent les adolescents, hein, transformations au niveau physiologique, anatomique, la croissance. Et d'ailleurs, ce qui est compliqué, c'est que la première chose que subit, si je puis dire, un adolescent, c'est la croissance. Donc très rapidement, et la croissance, c'est le développement donc des caractères sexuels secondaires, on a des seins, les poils, etc. Et finalement, l'erreur que font les adultes souvent, c'est qu'ils se disent « tiens, ça y est, il est adulte ». Ils le considèrent comme un adulte et ils s'attendent à ce qu'il se comporte comme un adulte. Et Patrice Huère, il dit que c'est pas très sympa, mais c'est assez représentatif. En fait, un adolescent, c'est un cerveau XS dans un corps XL. Parce que quand on s'intéresse à ce qui se passe au niveau du cerveau, et c'est un gros chantier, le cerveau d'un adolescent, vraiment. Il y a des l'élagage des neurones, il y a la dopamine qui fonctionne à fond les balais, beaucoup plus. Donc, ils sont toujours en train de vouloir aller vers des choses très positives. Et d'un autre côté, ils évaluent encore pas suffisamment bien les risques, etc. Donc c'est pour ça qu'ils font ce qu'ils font à l'adolescence. Et puis effectivement, qui suis-je, où vais-je, hein, donc toutes ces transformations, recherche d'identité intellectuelle, et puis je me rapproche de mes pères et je m'éloigne de mon père, etc. C'est tout ça un adolescent.
Ouais. Et le cerveau qui achève son développement vers 22-23 ans.
25 ans. Oui. C'est ça qui est plus difficile en fait. Et qui finit par ce qui nous rend, on va dire, raisonnable, avec des gros guillemets.
Les pensées pour moi-même de Marc Aurèle et le manuel d'Épictète sont disponibles évidemment en poche, hein,
voilà,
à un prix très modique. L'ordonnance philosophique de Thibaut de Saint-Maurice est à voir en vidéo sur l'appli France Inter et sur la page Facebook de Grand Main Vous Fasse. On évoque dans quelques instants d'autres phrases qui agacent parents et adolescents. Tu vas sortir comme ça, t'es sûr? 01 45 24 7000.
Dans l'univers, il y a des milliards de vies. Sur Terre, 7 milliards d'êtres humains. Peut-être 3 milliards de filles, mais c'est toi que je veux.
T'es obsédé par le vide et je déteste ton mode de vie. Et puis tata par le vice, mais c'est toi que je veux.
Y'en a plein, mais y'en a qu'une, c'est toi.
Je sais des choses que tu ne sais pas.
Je sais qu'on serait même pas heureux ensemble.
Nous sommes de ceux que la rancune sait pas.
Dans l'univers, y'a des milliards de vies. Sur Terre, 7 milliards d'êtres humains. Peut-être 3 milliards de filles, mais c'est toi que je veux. T'es obsédé par le vide et je déteste ton mode de vie. Et puis t'as ta part de vice, mais c'est toi que je veux. Y'en a plein, mais y'en a qu'une, c'est toi.
Je sais des choses que tu ne sais pas.
Je sais qu'on serait même pas heureux ensemble.
Nous sommes de ceux que la rancune sait pas.
Et même si notre amour raté devait renaître demain, elle m'a dit jamais je ne remettrai mon cœur entre tes mains. Jamais, jamais, n'oublie pas que quand tu l'avais, tu ne m'as laissé que du mal-être et des marques. On était jeunes, on pensait que s'aimer c'était se traiter mal. Pourtant dans l'univers y'a des milliards de vies. Sur Terre, 7 milliards d'êtres humains. Peut-être 3 milliards de filles, mais c'est toi que je veux. T'es obsédé par le vide et je déteste ton mode de vie. Et puis t'as ta part de vice, mais c'est toi que je veux. Y'en a plein, mais y'en a qu'une, c'est toi.
Je sais les choses que tu ne sais pas.
Je sais qu'on serait même pas heureux ensemble.
Nous sommes de ceux que la rancune sait pas.
On se dégoûte, on se combat jusqu'à ce qu'on bouffe les puissants lits. Notre couple succomba, ce désir puissant puis s'ennuie. Et le désir disparaît en même temps que la possession. Et les femmes de ma vie défilent en une étrange procession. J'y passerai seule la nuit sous le trait d'un jeune homme. Et quand la lune dort, le soleil lui, moi je ne vois qu'elle. Y'a des milliards de vies sur Terre, 7 milliards d'êtres humains. Peut-être 3 milliards de filles, mais c'est toi que je veux. T'es obsédé par le vide et je déteste ton mode de vie. Et puis t'as ta part de vice, mais c'est toi que je veux. Y'en a plein, mais y'en a qu'une, c'est toi.
Je sais les choses que tu ne sais pas.
Je sais qu'on serait même pas heureux ensemble.
Nous sommes de ceux que la rencontre.
peux apprendre à mon ombre. Un jour tu me donneras ton oui et tu prendras mon nom. Un jour tu me donneras ton oui et tu prendras mon nom.
Nekfeu et Vanessa Paradis interprétés dans l'univers.
France Inter, grand bien vous fasse. Ali Rebbi.
10h46, parents ados, comment éviter les phrases qui énervent? Question témoignage au 01 45 24 7000. Avec nous, le docteur Sophie Benkemoun, fondatrice de l'atelier des parents, Patrick Bensoussan, pédopsychiatre, et Marion Joseph, rédactrice en chef adjointe du magazine Phosphore. Vous proposez un dossier sur ces phrases qui énervent, justement, et parmi ces phrases qui agacent les adolescents, tu comptes sortir comme ça, proférées par les parents? On l'a tous entendu, celle-là.
On l'a tous entendu et ça continue à agacer toujours autant. C'est le jugement qu'il y a derrière, ou que les ados entendent derrière, qui agace. Ce qu'ils disent, c'est, on leur dit, tu comptes sortir comme ça. Ils entendent, mais c'est quoi cette tenue? C'est n'importe quoi. Évidemment, c'est une fausse question. C'est l'ironie qu'il y a derrière qui les exaspère. Et puis aussi, le fait que c'est une tentative de leur expliquer comment ils doivent s'habiller, ce qu'ils doivent faire, alors qu'ils sont justement au moment où ils ont envie de pouvoir dire d'assumer leur choix. Alors nous, ce qu'on leur dit, c'est ce qu'on leur conseille, le dossier est écrit sur un ton assez léger, mais ce qu'on leur conseille, c'est peut-être tu peux rappeler à tes parents que t'es le seul à savoir si t'as froid, si t'as peur du ridicule, etc. Par contre, ensuite, il faudrait aussi assumer les conséquences si t'attrapes une angine, que tu ou que tu te sens ridicule au lycée, ou voilà. Bon, donc comme on parlait des conséquences.
Sophie Benkemoun.
Ouais, c'est toujours avoir la bonne distance en fait avec les enfants. Cette bonne distance, elle est vraiment importante, et à l'adolescence, voilà, on va lâcher. Nous, on dit toujours aux parents, il va falloir choisir vos batailles. Il faut pas être sur tous les fronts, les vêtements, la chambre, les devoirs, l'hygiène, les sorties, etc. Je veux dire, effectivement, ils vont devenir des adultes et ils vont devoir être autonomes. Et puis donc, il faut lâcher petit à petit, quoi.
Et puis il y a aussi des ados qui assènent cette phrase, tu vas sortir comme ça, à leurs parents.
Ouais, absolument. C'est intéressant d'ailleurs, et justement là aussi on peut parler de ce que ça nous fait quand on reçoit ça. Et
Patrick Benkemoun. Bensoussan, pardon. Il fallait que je la fasse. Patrick Bensoussan.
Ben voilà, il y a des choses comme ça qu'on fait, il y a des mots qui sortent et puis les paroles qui peuvent être vives, inconséquentes, etc. Et dans le même temps, l'important de la parole, c'est ça, c'est sa capacité à faire lien. Et tant qu'il y a de la parole, il y a de la vie et on continue. On peut s'en foutre des trucs terribles, mais c'est pas le plus important en soi. Ce qui est important, c'est que les choses puissent continuer, etc. Vous savez, il y a des travaux récents qui ont été faits, pour reprendre ce que vous évoquiez sur le fait de l'éducation non violente, etc., sur cette assurance que quand on dit des choses terribles aux enfants, ils vont être marqués à vie, ils vont en avoir des traumatismes majeurs, ils vont avoir même des séquelles neurocérébrales, etc., etc. Mais l'idée, ça serait de pouvoir penser qu'on va rencontrer un monde dans lequel les choses vont être totalement pacifiées. Les mots vont toujours être beaux. Ça fait penser au conte de Perrault, quoi, sur les fées en particulier, hein. Donc, il y a de toute façon toujours des vipères et des grenouilles qui sortent des bouches des gens. C'est pas important en soi d'accorder autant d'importance à ces choses-là.
Sophie Benkemoun.
Alors, je suis pas, bien sûr, vous imaginez, complètement d'accord. On va pas pacifier tout, c'est pas l'objectif. Alors là où je voudrais recadrer les choses, c'est que quand on parle de communication non violente ou communication positive ou bienveillante, parfois c'est confondu avec du laxisme et puis du monde de bisounours. C'est effectivement non. Moi, je peux vous dire que je pète un câble à la maison encore régulièrement. J'en ai encore un.
Vous me rassurez.
Ah, je vous rassure. La petite maison dans la prairie, c'est pas moi. Je ne suis pas comme Madame Ingalls. Non, je veux dire, mais par contre, on a quand même blessé des gens. Je veux dire, on disait tout à l'heure, on s'est jamais intéressé autant aux enfants que maintenant, mais avant, c'était pas compliqué. Moi, je dis toujours, à peu près jusqu'à, en tout cas dans nos pays proches, en Europe, etc., jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale, c'était de l'autoritarisme et de la coercition à tout coin, tout craint. On a vu où ça nous amenait quand même. Donc après, il y a eu l'enfant roi. Alors là, on est reparti dans l'autre sens. On a fait 180 degrés, on a vu que c'était pas terrible. Donc je pense qu'en ce moment, on cherche la bonne distance et le bon dosage.
C'est vrai qu'il y a des phrases qui peuvent blesser. Tu vas pas sortir comme ça. Quand on est à une période où on s'interroge sur sa sexualité, par exemple, si on sort avec peut-être des vêtements qui ne correspondent pas pour les parents au genre, ça peut blesser profondément Marion Joseph.
Oui, et les ados trouvent globalement qu'on les critique beaucoup, qu'on les critique énormément. La phrase qui revient tout le temps, c'est « mes parents, ils me critiquent toute la journée, etc. » Ça ne veut pas dire que le lien est remis en cause du tout, mais on entend ça quand même beaucoup. Et vous parliez de vipères et de grenouilles. Bien sûr, il y a des vipères qui sortent de nos bouches et c'est pas grave. Et moi, il y a beaucoup de régulièrement des vipères aussi qui sortent de ma bouche vis-à-vis de mes ados. Mais peut-être qu'on peut de temps en temps se dire, il faut que je pense aussi aux grenouilles, parce que finalement, même si ils montrent pas forcément leur satisfaction, leur contentement quand on leur exprime nous le nôtre, c'est super fort pour eux d'avoir même un petit SMS. Ah ben, j'étais touchée de voir de trouver tout impeccable ce matin, le jour où c'est positif. Pour eux, c'est énorme, et ils le disent pas forcément à leurs parents, mais à moi, ils me l'ont dit lors de l'enquête.
Patrick Bensoussan.
Oui, enfin, la question que vous évoquiez là sur le tu vas pas sortir comme ça, etc., c'est quand même la façon de pointer un des éléments majeurs au temps de l'adolescence, c'est la sexualité. Et c'est évidemment la question que se posent tous les parents et la question que se posent tous les ados. Les ados, ils disent là quelque chose sur maintenant, voilà, je deviens entre guillemets un adulte, je vais assumer, c'est ma sexualité, c'est ma façon de le dire, de le penser et de vivre. Et les parents, ils sont terrifiés. Parce que pour eux, ça veut dire, mon Dieu, qu'est-ce que ça va être? Dans quel plan ils vont se mettre? Comment ça va se passer? Etc. Et dans le même temps, les constructions autour de la sexualité, c'est toujours normé. C'est-à-dire, il faut toujours contrôler, il faut toujours faire attention. Et l'adolescence, c'est ça. Quand on est adulte, on a besoin de contrôler les adolescents.
Thibaut de Saint-Maurice.
Oui, de ce point de vue-là, et parce que c'est un sujet sensible, et plus généralement, est-ce que il y a des combinaisons, on va dire, entre fille et père, ou fille et mère, ou fils et père, enfin voilà, est-ce que entre il y a des combinaisons plus propices au dialogue? Est-ce que, je sais pas, souvent il y a l'image que les filles s'entendent peut-être parfois mieux avec leur papa parce que la maman peut être un peu rivale, etc. Enfin, qu'est-ce que vous avez constaté? Est-ce qu'il y a des combinaisons propices?
Non, je crois que ça se construit aussi beaucoup dans les temps précédents, hein. Et les liens qui se mettent en place, c'est pas des liens qui naissent à l'adolescence, hein. Après, il y a toutes ces composantes qu'on évoque, hein, en termes de sexualité, hein, et on se rend compte que parfois il y a des aspects qui reprennent des stéréotypes très genrés depuis des siècles et des siècles. Donc les pères et les fils, c'est partager des moments de France masculinité ou des choses comme ça. Et puis les filles, c'est l'intimité, c'est des échanges autour de la féminité, enfin des choses. Tout ça, c'est des constructions, hein, qui sont des constructions sociales,
culturelles.
Et dont on peut, oui, culturel, et dont on peut vraiment s'émanciper, hein. Mais je crois pas qu'il y ait à un moment donné un recours particulier à telle ou telle personne de tel ou tel sexe. Ça s'est construit pendant des années.
Bonjour Dominique Picard.
Bonjour Ali.
Vous êtes notre experte en communication. Vous êtes intervenue hier dans notre émission consacrée à l'hypocrisie. Vous êtes professeur émérite en psychologie sociale, l'auteur d'un Que sais-je sur les conflits relationnels. Quelles sont pour vous, après nous avoir écouté là ce matin, les règles fondamentales d'une communication non violente pour désamorcer bien des conflits entre parents et adolescents?
Oui, alors, la communication non violente, on l'appelle aussi communication bienveillante. Et c'est le principe de base, c'est de rappeler que quand on communique, c'est pour créer du lien et non pas pour diviser. Donc, il faut être à l'écoute de soi et de l'autre, il faut être empathique et surtout, il faut arrêter de juger et de stigmatiser. Par exemple, au lieu de dire « tu es bordelique, tu me prends pour ta bonne », eh bien dire « moi, quand je rentre le soir, j'ai besoin que ça soit ordonné ». Parce que le désordre m'insécurise, je me sens mal. Alors si on dit tu es bordelique, on va s'entendre répondre, bah non, c'est toi qui es maniaque. Si on dit ce que je viens de dire, c'est-à-dire moi j'en ai besoin, on peut s'entendre répondre, eh ben, il n'y a pas que tes besoins qui comptent et les miens. Mais après on peut dire, ok, on a des besoins différents et même opposés, maintenant on va essayer de voir comment on peut s'arranger pour qu'on se sente à l'aise l'un et l'autre. Alors, là-dessus, il y a des trucs, hein, il y a des principes de base, etc. Mais par exemple, je vais vous donner deux exemples. L'un des trucs, c'est de dire au maximum « je », « je suis mal » ou « je suis en colère » au lieu de « tu ». « Tu m'agresses tout le temps »,« tu m'énerves », etc. Et on verra que si on s'implique, le parent qui s'implique, il est en quelque sorte modélisateur pour l'enfant, qui va peut-être aussi s'impliquer. Et après, on va pouvoir parler de jeu à jeu, et ça ira mieux, en principe. Deuxième truc aussi, il faut dire ce qu'on veut au lieu de dire ce qu'on veut pas. Mmh. Par exemple, mais je veux plus que tu passes toutes tes soirées dehors. Tu rentres à point d'heure, il y en a marre. Ben bon, ok, l'ado, il le fait. Il rentre directement du lycée. Simplement, une fois qu'il rentre, il passe sa soirée sur les écrans. Et on va lui dire, ah mais je veux plus que tu passes ta soirée sur les écrans. Il a beau jeu de répondre, ben, qu'est-ce que tu veux alors? Je suis rentré. Non, c'est dire exactement ce dont on a besoin. C'est pas qu'il soit pas avec ses copains ou c'est qu'il soit pas avec ses écrans, mais ben, j'aimerais qu'on passe un peu de temps ensemble. Si c'est ça dont on a besoin, eh ben c'est ça qu'il faut dire.
Merci Dominique.
Donc, voilà, si vous voulez, quelques principes de base. Maintenant, je peux en dire plus si vous voulez. Posez-moi des questions.
Non, on peut.
Mais je pense aussi que Dominique tout ce que Picard, vous avez dit jusqu'à présent va dans ce sens.
On peut lire avec profit votre Que sais-je consacré au conflit relationnel. Merci beaucoup Dominique Picard. Marion Joseph, dans le phosphore de ce mois-ci, 5 règles d'or hein, pour améliorer la communication familiale. Dominique Picard en a donné quelques-uns.
Oui, alors bon, il y a la parole sincère, l'expression sur les besoins, pouvoir trouver un terrain d'entente sur les besoins, ça elle a bien dit. Il y a aussi, particulièrement quand on est parents d'ados, peut-être l'écoute, parce que souvent on dit comment parler aux ados, c'est déjà comment les écouter. Et les écouter sans arrière-pensée, c'est-à-dire sans savoir déjà ce qu'on va conclure de ce qu'ils disent. Bon, c'est vrai dans les relations humaines en général, mais peut-être particulièrement avec les ados. Par exemple, un ado qui arrive quelque part et qui dit « Quoi, il n'y a pas de wifi ici ?» C'est la phrase exaspérante. Peut-être que si on peut entendre que pour lui, c'est un vrai drame qu'il n'y ait pas de wifi parce qu'il va perdre le contact pendant quelques temps. Voilà, ça peut déjà aussi désamorcer certaines tensions. Après, il y a le fait d'établir aussi des règles. Et ça, on en a parlé. Mais moi, je pense, pour revenir à ce qu'on disait tout à l'heure sur le contrat, que établir des règles, ça peut très bien se faire, ça peut très bien être conflictuel d'établir des règles, mais n'empêche qu'il se passe quelque chose et qu'on acquiert aussi des compétences pour les relations humaines pour la suite.
Un mot de conclusion, Patrick Bensoussan.
Oui, enfin, la conclusion, c'est pas moi. Vous savez, il y a un psychiatre et psychanalyste, un vieux bonhomme qui avait un prénom de canard qui s'appelait Donald Winnicott de son nom, qui disait dans des conférences aux maires, vous avez accouché d'un ange et vous héritez d'une bombe. Donc il y a quelque chose de cette réalité-là aussi qui est importante à entendre. C'est pas anodin, c'est vraiment quelque chose qui est important, mais aussi dans la structuration de l'adulte. Parce que il faudrait aussi ne pas mettre de côté toute la dimension sociale de l'adolescente, historique, culturelle. C'est un temps aussi que nous avons construit, j'ai dit aussi.
Sophie Benkemoun, en quelques mots, mot de conclusion.
Ah ben moi, je dis aux parents, choisissez vos batailles. Et pour ce qui est de la communication, on peut toujours se demander si à moi, on me parlait comme ça, qu'est-ce que ça me ferait.
Puis on oublie souvent l'adolescent qu'on a été.
Et ne pas oublier absolument que nous aussi, on n'a pas envie de vider le lave-vaisselle, etc.
Merci beaucoup, Patrick Bensoussan. Vous reviendrez, on débattra ensemble sur la parentalité positive, pourquoi pas avec Sophie Benkemoun. Merci beaucoup de l'Atelier des parents. Merci Marion Joseph. Le dernier numéro de Phosphore est disponible en kiosque. Demain, nous recevons Perla Servan-Schreiber pour évoquer son art de cuisiner. Et puis, avec le journaliste Laurent Guèze du Parisien, nous mangerons local et de saison. Coup de projecteur sur certaines initiatives locavores. 01 45 24 7000. À suivre, Nagui.